Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Ensemble. Christophe joue bien pour vous accueillir. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour, ou plutôt un petit retour aux Artisanales de Chartres, édition 2018, le deuxième salon artisanal de France en termes d'affluence et d'exposants s'est déroulé du 12 au 15 octobre dernier à Chartres Expo. Comme chaque année, nous sommes partis à la rencontre de ces hommes libres que sont les artisans. Tout à l'heure, nous irons bavarder avec Daniel Liévin, artisan fleuriste depuis bientôt 40 ans et meilleur ouvrier de France, mais pour ouvrir le bal, un tout jeune homme pétri de talent.
On va commencer ce tour d'horizon des Artisanales 2018 avec une pièce unique, cher monsieur. Vous êtes Matteo Cremades et vous avez un atelier à Tours de sculpture sur parchemin. Et si j'en crois, et j'ai aucune raison d'en douter, votre flyer, vous êtes l'unique sculpteur sur parchemin en France.
Voilà, oui, tout à fait. Je suis le seul à fabriquer des rosaces en parchemin, donc à destination d'instruments de musique du 16e et 17e siècle. Donc je travaille avec des luthiers qui font des reproductions d'instruments anciens. Moi, je leur fais cette pièce assez complexe qui s'introduit en fait dans l'ouïe des instruments. Donc, par exemple, sur des guitares baroques, sur des clavecins, sur des viols de gambe. Voilà.
Vous faites un travail rare sur des instruments qui le sont tout autant finalement.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un travail que je fais en collaboration avec des luthiers d'instruments anciens.
Comment vous êtes devenu sculpteur sur parchemin ?
Alors c'est une longue histoire parce que ça a été de fil en aiguille. Je suis musicien moi-même, je joue de la guitare baroque et je chante. J'ai d'ailleurs un ensemble de musique qui s'appelle l'ensemble parchemin. Et donc c'est en fabriquant mes instruments que je suis venu à réaliser les rosaces en parchemin. Puisque j'ai fabriqué une première guitare baroque et sur les guitares baroques, on a cette pièce en parchemin donc, qui est typique de la facture instrumentale de ces instruments. Et donc quand j'ai commencé à fabriquer mon instrument, j'ai dû faire une rosace en parchemin. Et là, ça m'a plu et j'ai décidé d'en faire mon métier.
C'est la totale, en fait. Vous êtes musicien, luthier et sculpteur sur parchemin. C'est quand même très rare, non, d'avoir des musiciens qui construisent eux-mêmes, qui fabriquent leur instrument.
Oui, c'est pas courant, effectivement. Moi, c'était plus par une nécessité. Hein. C'est quand même des instruments qui coûtent relativement cher. Et moi, je me suis dit, autant mettre des sous dans le matériel qui est nécessaire à la fabrication d'instruments. Comme ça, je pourrais en refaire d'autres. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans le matériel et de tenter l'aventure de fabriquer un instrument. Et c'était une belle aventure parce que ça m'a amené vraiment à ce métier de sculpteur sur parchemin. Je suis très content d'avoir tenté l'aventure comme ça.
Si je jette un œil à votre stand, c'est très minimaliste. Vous travaillez avec un couteau ?
Alors je travaille avec j'ai deux outils principaux. Donc effectivement, ça va être le scalpel, une espèce de comme les scalpels qu'on utilise en fait en chirurgie. Donc ça va me permettre de découper mes feuilles de parchemin. Et je travaille également avec des emporte-pièces. Ce sont des petits tubes circulaires qui me permettent d'enlever des petits ronds, des emporte-pièces à frapper. Ça me permet de faire tout ce qui est petits cercles, petits ronds sur mes pièces.
Ça, c'est un emporte-pièce. Donc l'expression à l'emporte-pièce, finalement, voilà.
Tout à fait, ça enlève un petit bout de parchemin. Donc ça, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir faire tout ce qui est découpe circulaire qui est impossible à faire à main nue pour que ce soit très propre.
Comment vous avez appris ?
Je suis autodidacte. Voilà, que ce soit la lutherie ou la sculpture sur parchemin, j'ai appris en autodidacte.
Et pourtant, je vois là, il y a le dessin d'une guitare baroque. Ça n'a pas l'air tout simple quand même pour fabriquer une guitare baroque. Quelles sont les particularités de cet instrument ?
Alors il y a plusieurs particularités. Tout d'abord, sa forme qui est un peu une forme de cacahuète. On peut en voir souvent sur les tableaux dans les musées des Beaux-Arts. Il y a souvent des tableaux du 17e avec des joueurs de guitare, notamment chez Watteau, le peintre Watteau. On en voit beaucoup. Donc une guitare assez fine. un peu plus petite que la guitare que l'on connaît tous. Deuxième particularité, donc, c'est rosaces en parchemin qui ornent le centre de l'instrument, hein, qui ornent l'ouïe, qui normalement sur les instruments modernes est laissé libre. Là, on mettait ces rosaces en parchemin pour décorer l'instrument. Autre particularité, on a 10 cordes sur ces instruments, c'est-à-dire 5 cordes doublées.
C'est très virtuose alors à jouer.
Alors non, c'est à peu près la même chose qu'une guitare classique. En fait, ces 10 cordes on les joue deux par deux, donc un peu comme sur la mandoline ou comme sur le luth. Et dernière particularité, on a ce qu'on appelle des frettes, c'est-à-dire ce qui départage les cases du manche de la guitare, qui sont amovibles, donc c'est-à-dire que ce sont des petits liens qui sont noués autour du manche. Donc ça, c'est vraiment typique de la facture des instruments du 16e, 17e siècle.
Vous avez beaucoup de clients, là ?
Oui, je travaille avec des luthiers partout en Europe, des luthiers des facteurs de clavecin, des luthiers d'instruments anciens, beaucoup de luthiers de guitare, des fois des viols de gambe, voilà. Mais beaucoup de facteurs de clavecin pour réaliser les ornementations pour leurs instruments.
C'est un monde vraiment à part, le monde du baroque, non ? Ce sont des passionnés, vous vivez à l'ère baroque presque, hein ?
Ah, je dis oui, enfin...
votre métier de luthier, la musique...
Oui, effectivement, il faut être un minimum passionné parce que c'est quand même un savoir-faire qui a été assez oublié, qui est ancien, qui a plus de 400 ans. Donc, il faut aller rechercher ces savoir-faire anciens pour les réinterpréter, les remettre au goût du jour. Donc, moi, je fais pas mal de recherches en bibliothèque, dans les musées aussi, pour aller chercher des patrons de rosaces à copier. Voilà.
Est-ce qu'il y a une symbolique autour de ces rosaces ?
Alors ça, il n'y a pas eu vraiment d'études faites dessus. Probablement, oui. Alors, c'est beaucoup de motifs qui sont inspirés des motifs gothiques qu'on retrouve sur les cathédrales, mais également des motifs arabo-andalous.
Je vois une étoile de David, là, derrière.
Oui. C'est vraiment un motif qui est très, très courant, puisque c'est quand même la guitare baroque vient quand même de l'Espagne, et de l'Espagne du XVIe siècle. Et il ne faut pas oublier que l'Espagne du XVIe siècle, c'était une Espagne qui avait été... C'est la fin de l'invasion arabe en Espagne. Et le monde musulman a amené toute une gamme de motifs qui a été repris énormément dans l'ornementation baroque.
Merci beaucoup, Matteo Cremades. On peut évidemment faire appel à vous, ateliermatteocremades@gmail.com. On peut aussi appeler au 06 20 12 99 28. Et sur Facebook également.
Voilà, j'ai une page Facebook et sur Instagram.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Quoi qu'on dise, c'est toujours mieux quand on le dit avec des fleurs. Je suis très heureux d'avoir en face de moi Daniel Liévin, qui a été meilleur ouvrier de France. Quand je dis il a été, non, on est toujours meilleur ouvrier de France. À vie, quand on l'est une fois, c'est pour toujours. Comment ça s'est passé ?
Oh là là, il y a bien longtemps, hein, c'était en 1986, session 86. Toujours beaucoup de tension. Et puis bon, avant tout, c'est quand même une satisfaction personnelle pour notre métier.
Mais comment on l'est concrètement ? Il faut évidemment postuler. Et il y a plein d'étapes, j'imagine, avant d'être nommé meilleur ouvrier de France.
Oui, je pense qu'il faut déjà être sûr de soi. Hein, il faut déjà avoir fait pas mal d'autres concours, tels que des Coupes de France, des Oscars des jeunes, pour dire d'être vraiment on est dans la passion de la fleur avant tout.
Comment on devient fleuriste ?
Oh ben moi, c'est pas été très difficile, puisque mon père était déjà fleuriste, donc le magasin avait été créé en 53, donc c'était une passion, j'ai toujours été dans la fleur, et pour moi, quand je suis à l'atelier, ben je suis en vacances.
C'est très étonnant, parce que je regardais faire un de vos ouvriers là ici, je m'aperçois qu'il y a plein, il y a plein d'outils en bas, etc.
Oh ben notre métier, c'est d'abord du bricolage, avec des éléments pas très chers avant tout, et donner un maximum d'effet à ce qu'on veut réaliser. Alors là, ils sont en route à réaliser donc une création murale suspendue, Alors on leur donne les fleurs, on leur donne tous les éléments, et là ils ont 5 heures donc pour réaliser cette suspension.
C'est un travail hautement technique. Quelle est la formation en fait pour devenir fleuriste aujourd'hui?
Avant tout, il faut aimer le métier, parce que c'est un métier très prenant. On n'a pas de dimanche, on n'a pas de jour de fête. C'est du travail.
Ah
oui, mais c'est du travail tous les jours, mais je vous dis, mais quand on l'aime, c'est pas grave. C'est très bien. C'est très agréable. Ensuite, souvent on est apprenti, on fait de la formation quand vraiment on a envie de faire ce métier. Et puis on passe en CAP, ensuite il y a un brevet professionnel. Et création du magasin, je vous dis les concours, il y a plein de choses à faire.
Il faut avoir du goût aussi, non? Le goût, ça s'apprend pas.
Non, c'est ce que je dis. Du départ, il faut quand même avoir une vocation. Je pense que c'est un peu comme un peintre. Mais après, par contre, il faut apprendre la technique. Parce que la technique est super importante. Pour faire quelque chose, il faut d'abord que les fleurs tiennent. Il faut que le client revienne et qu'il vous dise « Je suis content, vos fleurs ont tenu 8, 10 jours, 15 jours. » Là, c'est super pour nous. Parce qu'il y a deux métiers, hein. Il y a marchand de fleurs et il y a fleuriste.
Ah, ça c'est intéressant. C'est quoi la différence alors?
C'est vraiment le travail, c'est la technique, c'est la créativité, les créations, si bien pour les mariages que pour les deuils, enfin pour toutes les circonstances de la vie.
Il faut avoir un rapport particulier avec les fleurs aussi, non?
Il faut les aimer, c'est tout.
Mais quand on a une boutique de fleuriste, on se fournit comment? Comment ça se passe? Moi, j'ignore tout de ce métier.
Oh ben, il y en a des grossistes. Bon, aujourd'hui, c'est quand même... Avant, je parle de ça d'il y a quelques années, on n'avait que le midi, à vrai dire, qui nous servait. On avait les œillets, on avait les glaïeuls, l'asparagus, c'était nos fleurs, la rose, bien sûr, qui a toujours été quand même la reine de la fleur. Tandis qu'aujourd'hui, on a une multitude de variétés de fleurs. Donc, on a les maisons hollandaises, on a bien sûr la fleur française aussi, qui est importante, midi, qui est encore un peu en production quand même. Et puis après, tout dépend de quelle région vous êtes aussi.
Vous êtes de quelle région, vous?
Moi, je suis des Hauts-de-France. Alors, donc, je suis malheureusement loin du midi, même loin de la Bretagne. Et faire venir des fleurs, il faut dire que ça coûte relativement cher en transport, ce qui nous fait un coût automatiquement à remettre sur le prix des fleurs. Et ça, c'est bon, après on devient plus compétitif, ce qui est important aussi, mais on a peut-être une autre qualité de fleurs aussi. Mais alors par contre, moi je vais en Belgique ou la Hollande, puisque c'est à côté de chez moi, bien sûr, hein, on peut pas nier les Hollandais, parce que bon, c'est quand même un peu leur vie, les fleurs. Hein, aussi bien en grande variété, aujourd'hui on a énormément de variétés, et c'est ce qui fait justement notre métier, l'amour de notre métier, de nos compositions.
Vous avez dit qu'il fallait de la technique. Bah, moi, la technique, c'est quoi? Pour faire un bouquet? Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres aspects du métier que vous pourriez peut-être nous faire découvrir.
Ah ben oui, regardez, là ils sont en route à faire une création murale, donc il faut savoir découper du polystyrène, il faut savoir surfacer, il va falloir travailler le fil de fer, il va falloir travailler les grillages, il y a plein de choses à faire.
Il faut avoir un œil extraordinaire, non?
Pour la couleur quand même.
Oui, la couleur est super importante aussi. Et après, on a chacun son style aussi. Hein. Il y a des gens qui vont travailler beaucoup plus moderne, il y a des gens qui vont être beaucoup plus romantiques. Après, chacun garde un peu un style.
Ouais. Est-ce qu'on évolue? Est-ce que, par exemple, les goûts que vous aviez quand vous avez été meilleur ouvrier de France, vous les avez toujours? Ou est-ce que vous avez évolué? Est-ce que votre goût a changé?
Mon goût n'a peut-être pas vraiment changé, mais il y a beaucoup d'évolutions quand même. Parce que bon, il faut toujours être d'actualité. Il faut toujours savoir qu'actuellement, on est beaucoup dans les verts, on est beaucoup dans les feuillages, on est beaucoup dans les graminées. Donc c'est à nous de travailler justement tout ce qui est actuel. Donc il faut suivre la mode. Il n'y a rien de tel, vous regardez les rideaux, vous regardez la mode vestimentaire, et avec ça, tout suit.
La mode vestimentaire aussi. Alors.
Pareil, pareil. Parce que vous regardez, si c'est la mode du vert, on va l'avoir aussi bien en ameublement, on va bien aussi bien l'avoir dans les robes de ces dames, on va bien l'avoir dans nos fleurs, on va travailler peut-être plus davantage de vert. On est quand même un peu lié à cette, à cette tendance. Et c'est une tendance. Aujourd'hui, il y a une tendance florale, il y a une tendance générale, à vrai dire.
Alors, il y a aussi d'autres traditions, je veux dire, dans les pays étrangers. Je pensais notamment à l'ikibana au Japon, l'art de faire les bouquets, un art tout à fait traditionnel. Ça, ça vous a intéressé, par exemple, ça ?
Je sais que dans la cuisine, par exemple, on mange du sushi.
Disons que l'ikebana, c'est différent. Ça, c'est vraiment... c'est un art. Un art japonais, ça s'apprend parce qu'il y a les nuages, il y a la terre. Mais pour moi, c'est en tant que fleuriste, c'est pas quelque chose de commercial. C'est quelque chose qu'on va faire chez soi parce qu'il faut aller dans son jardin, il faut cueillir une branche, il faut mettre en valeur la feuille, il faut mettre en valeur la racine. C'est différent.
Vous connaissez quand même bien cette affaire-là.
Oui. Un petit peu, on est obligé quand même. Arrivé à mon âge, je suis obligé de tout connaître. Pas tout parce qu'on apprend tous les jours, mais beaucoup de choses.
Quand un client vient vous voir, vous allez chercher à lui faire plaisir, vous allez chercher à lui suggérer des choses, à lui imposer vos goûts. Comment ça se passe, un rapport avec le client ?
Déjà, vous avez le client en face de vous. Vous demandez un petit peu ce qu'il aime, ses couleurs. Puis après, on lui suggère un petit peu ce qu'il a envie, s'il préfère quelque chose d'un petit peu en hauteur, quelque chose d'un peu rond, quelque chose d'un peu moderne. Et puis après, on voit selon son envie. On essaye toujours de faire pour qu'il soit un maximum satisfait. Je pense qu'il vient chez un meilleur ouvrier de France. C'est pas pour payer plus cher, loin de là. C'est avant tout, je pense, la qualité et le service. C'est super important.
Les meilleurs ouvriers de France aiment transmettre aussi leur travail, leur art. Vous le faites, ça c'est un des plaisirs de votre métier aussi.
Absolument. D'abord les apprentis, et puis on est heureux quand ils réussissent, quand ils finissent en prenant un magasin, et puis que c'est une réussite pour eux. Pour nous, c'est avant tout notre réussite, puisqu'il faut savoir donner et partager.
C'est plus les filles ou plus les garçons qui deviennent fleuristes aujourd'hui ?
Il y a les deux. Mais je pense que c'est un peu comme les cuisiniers. Les fleuristes masculins, disons, c'est une passion avant tout. C'est comme une femme qui devient mécanicienne. C'est pareil, c'est parce qu'elle a envie du moteur. Souvent, le fleuriste homme, il n'est pas très, très bricoleur au point de vue moteur ou au point de vue huile. Ça va être quelque chose de plus dentelle, plus finesse.
Le métier, il a de l'avenir. Vous êtes, je le rappelle, donc président de la Fédération, c'est ça, française des artisans.
Président en art floral, section meilleur ouvrier de France. Voilà. Pour moi, oui, à partir du moment où on aime son métier, à partir du moment où on le respecte, à partir du moment où on fait des belles choses, je pense qu'il y a la place pour tout le monde.
Dernière question, votre fleur préférée ?
Pour moi, je pense que c'est quand même la reine de la fleur, ça va être la rose. Parce qu'il y a une évolution, on la voit vivre, on la voit en bouton, on la voit éclater, quand on a la chance de la sentir en plus.
Merci beaucoup Daniel Liévin et longue vie au monde de la fleur. Alors merci beaucoup.
Merci.
Des artisanats, il y en a de toutes sortes. Le conte, par exemple. Eh oui, le conte est un artisanat. Et je vous propose de faire la découverte, la connaissance d'une conteuse très talentueuse que vous avez pu applaudir dans maintes salles d'Eure-et-Loire à l'occasion du Festival du Légendaire. Il s'agit de Malika Albaoui, d'origine marocaine, qui a publié récemment un conte des sages berbères aux éditions du Seuil.
Les artisanales, c'est vraiment le lieu de toutes les rencontres. Moi, je ne m'attendais pas à trouver devant moi deux conteurs, poètes, Messi, qui participent au Festival du Légendaire cette année, qui publient, qui font des spectacles. C'est donc, vous allez vous présenter.
Malika Albaoui, donc conteuse et écrivain et amoureuse de la poésie.
Karim Rafi, plasticien et c'est tout. c'est assez large déjà. Voilà.
Oui, parce que plasticien, on peut aussi écrire quand on est plasticien.
Tout à fait. Donc j'écris, c'est tabarique, voilà. Je fais des choses, j'essaie de rien faire et donc ça fait, je fais ça.
Les gens qui essaient de rien faire sont les plus occupés, généralement. La raison de votre présence ici, en fait hein.
Alors moi, je suis avec la compagnie AMSA, donc, qui organise le Festival du Légendaire. Et je suis artiste associée et je participe. Donc j'ai deux spectacles. Et en fait, le festival, cette année, il se dote aussi d'un salon du livre, un temps fort de salon du livre au Château de Maintenon. Et donc, ben, voilà, on va raconter, on va parler, on va se raisonner les uns avec les autres sur l'imaginaire, nos imaginaires. Et voilà.
Vous allez nous faire découvrir, je crois, l'univers berbère, c'est ça ? Parce que alors vous l'avez dans les mains, votre livre sur la conte des sages berbères. C'est un monde tout à fait à part. Ce sont les premiers habitants du Maghreb, les berbères.
Les Imazighens, c'est les hommes libres, oui, les premiers habitants qui s'étendent. Bon, là, moi, je ne sais pas. Burkina Faso, Niger, Maroc, Algérie, enfin les frontières actuelles, mais sinon c'est vraiment jusque l'Afrique subsaharienne.
Il y a une culture berbère qui est transnationale, je veux dire.
Je pense que c'est pas la culture berbère, parce qu'à la base c'est un peu péjoratif de dire berbère, et je pense parce que berbère c'est les autres qui ont donné ce nom, c'est les vainqueurs qui ont donné ce nom, et c'était pas n'importe quel vainqueur, c'était effectivement les Romains qui voulaient un peu poser des choses, créer des routes, et pas pour se faire circuler une idée, enfin un modèle, mais pas tous les modèles. Et je préfère le mot amazir, ou plutôt même le mot en français, homme libre, c'est très bien, c'est très bien.
Donc amazir, homme libre, c'est ainsi que se définissent, excusez-moi, les berbères, parce que c'est le seul mot que j'ai en ma possession. Hein.
C'est vrai, c'est les hommes libres. C'est très poétique hein, comme idée.
Mais quelles sont les caractéristiques de cette culture ou de ces cultures par rapport, par exemple, au monde arabe? C'est très différent? C'est autre chose?
Les différences, ça, c'est un peu comme les différences entre un basque et un catalan. Et donc, quand on, de toute façon, plus on avance, plus il y a des petites différences et ainsi de suite. Hein, mais il n'y a aucune. On peut trouver des différences déjà entre un rifin et un souci et un touareg, mais en même temps, on peut trouver aussi le même degré de différence entre un touareg et un bantou. Et un peul, et puis la même différence entre un rifin et un espagnol, un catalan, un basque. Je pense que c'est une question rhizomatique et je vois pas ça. C'est déjà la liberté, ça nous oblige à penser au-delà des frontières. Et je pense que c'est ça le plus important.
Il y a une langue commune quand même dans le monde berbère?
Oui, enfin, il y a en tout cas là au Maroc, ça fait partie de la langue du Maroc officiellement. Le tifinagh. Oui, il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs courants hein, chez les Berbères. C'est comme c'est assez dynamique. C'est vraiment, je rebondis sur l'idée de Karim. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis née au Maroc et je suis arrivée, j'avais 4 ans. Et en fait, ma culture, c'est les impressions, c'est mon père. C'est une forme, il était ouvrier, mais il avait, de temps en temps, vous savez pas, ça le prenait, il avait envie de créer. Alors il a créé des instruments de musique, il se mettait à chanter. Et ça, c'était tout ce qu'il avait refoulé, en fait. Il y avait toute une culture vivante, la créativité. Moi, j'ai découvert assez tardivement que j'étais héritière de cette culture. Parce que ma vision, mon désir de créer, moi, je me sens bien quand j'arrive à... Ça me prend le matin avant toute chose, quand j'arrive à traduire quelque chose d'impérieux qui est là, je ne sais pas d'où... Et si je le traduis... Et tant que je ne l'ai pas traduit dans une justesse... Je suis pas satisfaite, et c'est quand hop, ça tient, j'entends, je relis la musique, je m'apprends, je dis ah tiens, c'est... alors là c'est formidable. Et là je sais que c'est quelque chose qui vient de loin.
On peut parler de votre travail, de ce livre par exemple, Contes des sages berbères. Alors ces sages, qui sont-ils ?
Alors là, il y a 26 contes qui sont de plusieurs... il y a des contes kabyles, il y a des contes du Maroc, il y a des contes touareg. Et j'ai fait tout un travail de recherche pendant... Bon, j'ai lu les ethnologues, et puis un peu la culture orale. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai entendu, et j'ai fait ce travail de tout artiste, en fait, d'actualiser sans trop mettre de sa petite interprétation limitée. Et ça, c'est un travail de... Ben, c'est vraiment un travail... c'est de justesse, en fait. C'est comment rendre hommage, rendre grâce, parce que l'art, c'est la célébration.
Cette sagesse, c'est une sagesse née de l'islam, ou il y a une sagesse également en dehors de la religion?
Ben, l'islam est arrivé bien après les berbères, donc bien sûr qu'ils ont intégré la sagesse de l'islam, parce que l'islam, c'est une sagesse. Mais avec leur liberté, avec la liberté de l'homme qui marche, de l'homme qui marche, de l'homme qui s'interroge.
Et voilà notre petite balade dans les allées de Chartres Expo à l'occasion de l'édition 2018 et des artisanales s'achève avec cette interview de Malika Albaoui. Je vous rappelle le titre de son livre publié aux éditions du Seuil, Contes des sages berbères. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, et je vous retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition de l'émission Ensemble.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée, à 7h05 tous les matins, Nicole et moi on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien, et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout petit point.
Départ à l'escalier. stations d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854, embarquement immédiat, porte numéro 37.